Bon, on a bien compris le message hier, après une grande discipline. Les Québécois ont levé le pied dans les dernières semaines concernant les mesures de santé publique, donc le port du masque, distanciation, ce qui fait que le nombre de cas augmente et ça inquiète. M. Legault hier parlait d'un relâchement. Je vais en parler ce matin avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. M. Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Qu'est-ce qui vous fait dire vraiment là qu'il y a relâchement chez une partie des Québécois?
Du côté de ce qu'on appelle la contagion communautaire, on voit qu'il y a des signes de plusieurs petites éclosions qui sont dues à des mesures sanitaires qui n'ont pas été suivies. Et ça, on le voyait pas dans les dernières semaines, parce que quand on tournait à 50, 75 cas par jour, on n'avait pas ce nombre d'éclosions-là. Puis vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit que c'était un peu comme, on compare ça à des petits feux de bosquet. Bien, avant, on en avait 3-4, mais là, on est déjà rendu à 10-12 par jour. Alors donc, il y a l'augmentation d'un nombre d'éclosions, et ce qui fait qu'il... L'effet multiplicateur, bien, fois 10, là, parce qu'habituellement, une éclosion va faire 10, 15, bien, jusqu'à 40 cas. Bien, c'est ça qui nous inquiète, c'est de voir ça dans les dernières semaines.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles, parce qu'il y a eu des cas là, de profs, entre autres, puis des élèves qui ont été placés en quarantaine, est-ce que ça vous inquiète?
Bien, c'est sûr qu'on avait dit... pour moi, c'est un différent niveau d'inquiétude, parce que la contagion communautaire puis les écoles, pour moi, c'est très différent. Du côté des écoles, on s'attendait qu'il y en ait, parce que, prenons l'exemple de mesures sanitaires aussi, on l'a vu, là, par exemple, à la polyvalente de Deux-Montagnes, c'est des mesures sanitaires dans l'école qui n'ont pas été suivies, parce qu'entre professeurs, il y a eu une espèce de relâchement, puis on pensait qu'on était avec des professeurs qui se connaissaient, on était dans une salle qui était trop contiguë, trop petite. Alors, encore une fois, mais là, ça s'est fait à l'intérieur de l'école. Et c'est encore une fois, je ferai la comparaison avec nos CHSLD il y a 6 mois, lorsqu'il y avait de la contamination entre des employés à l'heure du lunch, ben c'est eux finalement qui avaient baissé la garde, puis là commençaient à contaminer les patients. Alors c'est, pour moi, c'est deux choses différentes. Dans l'école, il va falloir aussi s'assurer que les mesures sont suivies, mais à l'intérieur des gens, entre les employés, entre les professeurs.
OK. Vous avez donné hier l'exemple du fameux karaoké là, dans le quartier Saint-Sauveur au Québec. Parlait d'une dizaine de cas. Le proprio a l'air même de dire, si on inclut les employés, un potentiel de 20 cas, ce qui est énorme. De mariage. Moi-même, j'ai vu une cérémonie de mariage sur le parvis de l'église. Les gens étaient en train de s'embrasser puis étaient collés pour la photo. Comment vous allez vraiment convaincre les gens? Là, on est rendu à l'étape de dire... Quoi? Les amendes à Sherbrooke, on l'a fait à l'Université de Sherbrooke, là, pas loin. Je pense qu'il y a 10 constats qui ont été émis. On est-tu rendu là?
Ben écoutez, on voulait pas aller là parce que je pense qu'on s'est fié jusqu'à maintenant à la bonne discipline des Québécois, mais quand je vois le fameux vidéo du karaoké, là, je veux juste vous dire, juste dans nos cas qu'on va annoncer aujourd'hui, là, j'ai vu nos statistiques ce matin, juste dans nos cas d'aujourd'hui, il y a un autre 12 cas qui est inclus dans ceux-là, qui nous vient du karaoké de Québec, en plus de ceux qu'on avait annoncés hier. Alors, c'est pour vous dire comment ce relâchement-là dans le communautaire. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à des pénalités? Moi, j'ai parlé à Mme Guilbeault hier pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, parce que, comme je l'ai mentionné hier en point de presse, il y a des actes que je dirais qui sont pénalisables. Parce que là, c'est vraiment là de l'irresponsabilité. Je ne peux pas croire que les gens prennent le risque de faire ce qu'ils ont fait hier dans les derniers jours dans ce bar-là.
Le karaoké a l'air de vous avoir particulièrement fait pomper.
Bien, écoutez, c'est peut-être parce que je ne chante pas très bien, là, mais ma principale raison, c'est que je trouve que c'est un exemple qu'on doit donner aux gens, que même si on est entre amis, même si on est avec des gens qu'on connaît, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces gens-là dans les derniers jours. Et c'est là qu'on parle de contagion communautaire. Alors, l'exemple du karaoké, c'est un exemple pour expliquer aux gens qu'on ne doit pas baisser la garde. Puis je sais qu'on est un petit peu tanné, puis qu'on pense qu'on fait ça pour rien. Mais là, demandez aux 40-quelques personnes qui vont être infectées, là, puis c'est pas fini, qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres, là? Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Mais votre exemple du mariage, c'est la même chose, là. c'est des gens à qui on a dit vous pouvez pas faire ce genre de d'événement là, et la garde tombe durant l'événement, puis c'est pour ça qu'on se retrouve hier à 140 cas.
OK. En même temps, je regarde les chiffres et depuis le mois de mars, les experts, les médecins à qui on parle nous disent gardez en tête l'importance du nombre de cas hospitalisés, de cas aux soins intensifs et évidemment de décès. On a peut-être plus de cas, une remontée des cas, mais pour ce qui est des gens hospitalisés, c'est quand même sous contrôle.
Moi, je suis content que vous le demandiez parce que je pense que l'effet, là, c'est... Je vais donner un exemple, là, c'est entre le tremblement de terre puis le tsunami. Le tremblement de terre, on le voit tout de suite, puis le tsunami arrive un certain temps après. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Vous l'avez vu aux États-Unis. Il y a quelques mois, quand il y a eu une augmentation des cas chez les jeunes aux États-Unis, on se disait c'est moins grave parce que c'est des jeunes qui sont contaminés puis ils seront pas malades. Regardez ce qui arrive aujourd'hui, c'est il y a un temps, il y a un impact entre au moment où ça arrive chez les jeunes, ces jeunes-là vont contaminer des parents, puis ces parents-là vont contaminer des gens plus âgés, et c'est là l'effet domino. Ça prend des semaines, ça prend des mois, mais on veut pas arriver là. Alors moi, c'est pour ça que je suis très prudent. Oui, il faut regarder les hospitalisations. Oui, il faut regarder les soins intensifs, mais il faut regarder que cette contamination-là va continuer dans la chaîne familiale.
OK, mais là, ce que vous me dites, là, c'est que vous regardez les chiffres là, de gens qui sont testés positifs et vous avez la conviction qu'on s'en va vers une augmentation du nombre à moyen terme, mettons, là, d'hospitalisation.
Je ne veux pas arriver là.
Non, je comprends, mais...
C'est exactement... Mais si vous me demandez, c'est notre crainte. Puis c'est pour ça qu'on demande qu'il n'y ait pas de relâchement, parce que oui, effectivement, quelqu'un qui a 22 ans, qui est contaminé, puis qui va être à la maison pendant quelques jours, puis qui s'en sort relativement bien, il peut y avoir des effets permanents. Je pense que les gens commencent à le voir en termes de troubles respiratoires, mais ce qui est important de penser, c'est qu'on ne veut pas que ça fasse contamination dans la chaîne familiale.
Okay.
Et ça, c'est ça qui nous inquiète.
Donc, je reviens à la question que je vous ai posée un peu tantôt. Vous avez dit, j'en ai parlé avec Mme Guilbeault, est-ce qu'on est rendu là, aux amendes? Vous êtes sur le point d'annoncer ça? Ou en tout cas, elles existent, mais il s'agit de les appliquer, là?
Bon, exactement. Alors, quand... Puis là, vous allez me dire que j'obsède sur le karaoké, mais l'exemple, là, c'est assez facile. Il y a une vidéo là, qui est en ligne, là, où on voit les gens faire ce qu'ils doivent pas faire. Alors là, dans ce cas-là, on est en train de regarder là, qu'est-ce qu'on peut faire comme amende pour ça. Là.
OK. Je voudrais parler avec vous ce matin de ce qui s'en vient. On sait que les frontières là sont fermées jusqu'à la fin septembre, que c'est renouvelable. Beaucoup d'auditeurs se demandent est-ce qu'on va pouvoir voyager, par exemple, dans le temps des fêtes? Beaucoup d'auditeurs sont ce qu'on appelle des snowbirds, partent habituellement vers le mois de novembre pour aller, par exemple, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que cette planification-là est inutile parce que, dans le fond, pas certain que ça va rouvrir?
Bon, écoutez, la question, c'est... Bon, premièrement, vous avez raison, on n'est pas certain. Hein. Vous savez qu'on en a beaucoup de snowbirds. Là. C'est un nombre important de Québécois qui font ça tous les ans. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, les gens, si jamais la frontière ouvre, vont pouvoir y aller, mais il y a deux éléments à penser. C'est s'assurer que si vous voulez, quand vous voudrez revenir, habituellement, les gens reviennent au printemps, ben, il va falloir qu'il y ait la période de quarantaine qui soit respectée, premièrement. Mais je dirais surtout, assurez-vous que vous avez les bonnes assurances. Parce que, on le voit être traité aux États-Unis. Oui, il y a une certaine couverture par la RAMQ, mais la RAMQ ne couvre pas tous les frais. Alors, quelqu'un qui aurait été hospitalisé, que ce soit pour la COVID ou d'autres choses, pourrait avoir une grande surprise au niveau de sa facture s'il a besoin d'être traité là-bas. Alors moi, ce que je dirais, c'est assurez-vous que si vous voulez revenir, que vous pourrez avoir la quarantaine, mais deuxièmement, assurez-vous que vous avez les assurances privées qui vous couvrent correctement.
Est-ce que, je comprends que c'est une responsabilité fédérale, là, mais avez-vous des indications que ça pourrait se prolonger, cette fermeture, jusqu'à la fin de l'année?
Ben, écoutez, on est dans le domaine du possible de beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, on va voir ce qui va se passer, entre autres avec les élections. Il y a deux approches qui pourraient être différentes dépendamment de qui sera élu, mais je pense qu'il est un petit peu trop tôt là, pour faire des, euh,
Okay.
Les hypothèses là-dessus, M. Arcand. Ah. Là, il reste encore beaucoup qui peut arriver avant le 3 novembre.
Là. OK. On me dit que quand on regarde au chapitre du personnel, là, bon, les préposés aux bénéficiaires, il y a eu de la formation, les gens vont commencer. Puis, bon. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement auprès d'infirmières?
OK. Des problèmes. Alors, du côté, premièrement, des PAB, ça va bien. Là. Il s'agit juste de bien finaliser nos 8000 postes qui vont rentrer, travailler avec les syndicats pour s'assurer qu'il va avoir le respect de l'ancienneté. Vous savez qu'on est en négociation collective. Mais moi, je me fie à la bonne foi là, que je vois dans les derniers jours d'essayer de trouver une solution. Fait que je pense que les PAB, on va s'entendre, mais c'est un petit peu compliqué compte tenu de la négociation. Mais j'aimerais dire là-dessus qu'on va respecter notre équivalent du 26$ de l'heure à ceux qui ont été engagés. Alors ça, pour moi, c'est important. Il y a toutes sortes de messages qui se disent en ce moment. Mais étant donné l'engagement qu'on a pris, on va respecter.
OK, mais ça, faisons le point très clairement, parce que j'ai beaucoup de gens qui se font dire là dans leur formation, bien là, c'est quand tu calcules ça, puis ça, c'est pas prévu, ça donne pas 26, puis ça donne pas une job à temps plein. Vous garantissez à tout le monde qui a suivi la formation, c'est 26$, job à temps plein.
Oui, monsieur, c'est très clair. Et c'est pour ça que je fais un petit peu le lien avec la question des négociations collectives. C'est qu'il y a toutes sortes de choses qui se disent, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on va s'assurer que les gens peuvent rentrer à ce salaire-là parce que c'est l'engagement qu'on a pris et eux, l'engagement qu'ils ont pris d'être à temps plein. Alors, le premier ministre a été très clair, il faut respecter l'engagement qu'on a eu. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'en termes de convention collective, comment on respecte le principe d'ancienneté à ceux qui sont déjà là, par exemple, qui étaient à temps partiel. Il faut leur offrir d'être à temps plein. Puis ça, on a décidé qu'on le faisait. Alors, il y a cet ajustement-là qui doit se faire pour être certain. Mais si ça prend quelques semaines de plus, bien, on va respecter qu'à compter du 15 septembre, les nouveaux qui arrivent vont avoir le salaire auquel on s'est engagé.
Maintenant, pour les infirmières, qu'est-ce qui arrive?
Bon, les infirmières, il nous en manque. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, là, j'ai rencontré Mme Bédard. Puis on lui a dit la même chose. Mais encore, je fais attention parce qu'on est en négociation aussi. Que s'il y avait un enjeu de personnel, qu'on allait mettre tous les efforts, un peu comme on a fait avec les préposés aux bénéficiaires, pour avoir du personnel supplémentaire. Ça, c'est très clair. Mais on le reconnaît, là, on le reconnaît depuis des mois, qu'il y a un manque de personnel, puis surtout avec ce qu'on a vécu dans la COVID, ben c'est évident que ces gens-là, il y en a qui ont quitté, et il y en a avec qui on voudrait qu'ils reviennent. Alors, c'est à nous de mettre les mesures nécessaires dans les prochaines semaines, puis je peux vous dire là, que l'équipe de Mme Lebel au Trésor, avec la négociatrice, travaille beaucoup sur cet aspect-là. Mais ce que je voudrais réassurer les gens dans la santé, c'est si on a besoin d'engager des gens, si le besoin est démontré, puis ça va être assez facile à démontrer, on va être là comme on l'a fait pour les préposés aux bénéficiaires.
OK. Dernière question. Là, je vous parle de patients non-COVID. On s'en est déjà parlé. Oui. Et je reçois encore des cas, là, notamment une auditrice qui m'écrit de la région de Québec. Elle a un cas de cancer, elle a un diagnostic, puis elle est en attente pour rencontrer le spécialiste pour élaborer le traitement. Ça fait plus d'un mois, puis elle n'a pas de date. Là. Puis elle se fait répondre, bien là, on ne peut pas fonctionner à plein régime. Comment vous allez gérer ces cas-là? Là? Parce que les patients non-COVID, il y a des cas qui sont bien tristes.
C'est triste, puis je pense que c'est un des effets les plus négatifs qu'on a eu de la première vague. Écoutez, on roule à peu près à 40 000 interventions par mois dans un contexte normal, à peu près 500 000 par année. Alors, c'est sûr que si le retard qu'on a pris, il va falloir être capable de rouler à plus que 40 000 interventions par mois pour juste rattraper le retard. Alors, on est là-dessus en ce moment, mais je pense qu'avec une intervention qu'on va faire maintenant par région, plutôt que de tout délester comme on avait fait la première fois. Je pense que ça va nous permettre là, de se préparer. Et c'est pour ça, je le répète, qu'il faut garder nos cas quotidiens très bas. Parce que plus on va rester dans le bas comme on est en ce moment, ben plus on est capable de rouvrir nos salles de chirurgie, peut-être avoir des heures supplémentaires, aller dans les cliniques privées avec les ententes qu'on a eues. Alors, on est en train de mettre tout en place pour être capable de faire plus que 40 000 opérations par mois. Mais pour ça, il faut que nos cas restent bas.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
Bonne journée à vous. À bientôt, M. Arcand. Merci.
Christian Dubé est le ministre de la Santé. Ce cas-là, évidemment, je ne veux pas identifier la personne, mais quand je lisais son courriel, je comprends le stress. D'abord, c'est une récidive de cancer. Dans son cas, on parle de métastase. Et là, elle est dans la chaîne. Elle est passée d'un spécialiste qui la réfère à un autre spécialiste qui ne l'a pas vu encore. Elle ne sait pas à quel moment. Puis elle ne sait surtout pas quel type de traitement l'attend. Il y a beaucoup d'angoisse. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il est 7h40.